Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Voici l'histoire d'une maman face à la maladie mentale de son fils Charles, diagnostiqué schizophrène. Une histoire que je tire du livre de Bénédicte Chenu qui sera là tout à l'heure, Des Lumières sur le ciel, qui paraît aux éditions Le Duc. Elle nous raconte tout son parcours, des premiers signes dans l'enfance de Charles, jusqu'à son adolescence de fumeur de pétard, le diagnostic bien long à obtenir, le monde de la psychiatrie divisé et déroutant, et cette méthode appelée pro-famille dont elle dit qu'elle l'a sauvée. Simon Veil m'a aidé à écrire cette histoire. La réalisation est de Céline Lebrun.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Du plus loin que je m'en souvienne, Charles a toujours été turbulent en classe, de la crèche jusqu'au lycée. Ses bulletins scolaires saluaient son intelligence, mais déploraient son potentiel inexploité. Bon élève, mais peut mieux faire. Mais tous disaient qu'il était attendrissant. Bon garçon, dans le fond. Et l'inverse d'un asocial, hein, l'inverse d'un enfant replié sur lui-même. Hein. Au contraire, il était bout en train, il avait beaucoup d'amis, il était joyeux, spontané, vif. Dès qu'il a su marcher, à 9 mois, il s'est mis à courir. Quand il montait un escalier, il comptait les marches.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Et à l'inverse, il les décomptait à la descente.
6, 5, 4, 3, 2, 1.
Vers 3 ans, je lui racontais l'histoire d'un petit ours, le soir avant de dormir. Eh bien après, il ouvrait le livre et il articulait les phrases au mot près, comme s'il savait lire. Cette mémoire, ça m'épatait. En grandissant, c'est devenu un cinéphile affûté. Ça a commencé par Bambi et le Roi Lion. Et à 14 ans, il est devenu pointu. Woody Allen, sans jamais non plus jouer les intellos. Au niveau du collège, on s'est dit avec son père, dont je suis séparé, qu'un cadre sévère pourrait l'aider à se discipliner. Alors on l'a inscrit en internat au collège Le Prieuré, dans notre village familial du Loir-et-Cher. Il se sentait plutôt bien là-bas, mais l'école l'ennuyait. Alors il perturbait la classe, les avertissements ont commencé à tomber, et il s'est fait exclure. Et en partant, il a laissé une lettre pour le surveillant. Au revoir. Je vous remercie de m'avoir collé 45 fois. Il s'est aussi fait exclure, au bout de 3 mois, de l'internat Sainte-Marie de Blois, qui avait accepté de le prendre. Et quand il l'a exclu, le directeur a eu une sorte de prémonition.
Je n'en suis pas certain, hein. Mais si vous voulez, à mon sens, c'est plus qu'une crise d'adolescence, hein, vous voyez. Il y a quelque chose de plus profond, hein, de plus grave, je crois. De plus compliqué, je pense.
Je ne fais pas de lien de causalité, mais l'apparition des premiers signes de son mal-être coïncide avec la mort de son cousin Clément. D'un coup, il se met à maigrir. Je lui en parle.
Oh, ça va.
Et il se met à fumer du cannabis. Au début, je le mets en garde, tout en me souvenant de l'adolescente insoumise que j'étais dans les années 80. Mais moi, je percevais les limites, pas lui. Son addiction au cannabis finit par me dépasser. Sa chambre, sa grotte, devient un fumoir. Et moi, je ne peux pas faire autre chose qu'assister impuissante à son glissement vers un état de plus en plus dépendant. Il maigrit toujours. Il n'a aucun intérêt pour ses études au lycée. Un jour, ma sœur me dit...
Tu crois pas qu'il devrait consulter un psy?
Et donc, je prends rendez-vous chez un psychologue. Au bout de 3 séances, le psychologue propose un rendez-vous à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
À l'hôpital? C'est si grave que ça? Écoutez, je crois que le profil de Charles échappe un peu à ma compétence. Je crois qu'il a besoin d'une hospitalisation. Mais qu'est-ce qu'il a? Je ne sais pas. On ne peut pas savoir à ce stade. Je crois qu'il faut le mettre en observation et tenter de comprendre ce qui se passe en lui.
Quand son père annonce ça à Charles...
Dégage! Fous-moi la paix!
Et à partir de ce moment-là, on sent qu'il est en train de basculer. On ne sait pas poser des mots dessus. Mais quelque chose se brouille entre notre monde et le sien. Il s'éloigne. Il est de moins en moins présent.
On se dit, on va plutôt aller dans une clinique privée, en dehors de Paris. Dans un cadre agréable, verdoyant. Tiens, par exemple, le château de Bel Air à Crosne, dans l'Essonne.
Oui, bien sûr, oui. Mais préalablement, il faudrait qu'il écrive une lettre de motivation, hein? Qu'il manifeste sa motivation à venir chez nous dans un courrier.
Et là, je tombe des nues. Enfin, il est confus, il ne sait pas se concentrer. Évidemment, il est inconscient de son trouble, il est incapable de rédiger une lettre de motivation. Incapable! On abandonne, à regret.
Sur les conseils d'une amie journaliste, je me tourne alors vers le célèbre pédopsychiatre de Marseille, Marcel Ruffaut. Il nous reçoit à sa manière, sympathique, enveloppant. Il parle à Charles d'égal à égal.
Finalement, Charles, ça n'est pas si mal, hein, n'est-ce pas, que vous ayez fumé, ça nous a permis de comprendre que vous étiez fragile, hein, et que vous ne pouviez pas fumer de cannabis pour l'instant. Vous êtes trop fragile.
Ruffaut rédige ensuite une lettre, une sorte de contrat. Bien dormir, bien manger, retourner à l'école, et ne pas fumer de cannabis.
Voilà, Charles. Si vous avez besoin, vous pourrez être hospitalisé ici, hein? Prenez soin de vous.
J'avoue que je sors un peu déçu de ce rendez-vous. Enfin, je ne sais toujours pas ce qu'il a. De retour à Paris, une amie de ma sœur m'oriente vers l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. On y revient, comme nous l'avait préconisé le psy. Et donc, le 16 mars 2009, Charles a 16 ans et demi, et avec son père, nous l'amenons à l'unité Seguin de l'hôpital de la Pitié, un service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Il est un peu perdu, mais il semble s'y résoudre. On est accueilli par Laure Adage, une psychiatre d'une quarantaine d'années. C'est elle qui va le suivre. Et là, je découvre le monde de la psychiatrie pour enfants des hôpitaux publics français. Mon Dieu! Vous avez vu vol au-dessus d'un nid de coucou? Eh bien, vous remplacez Jack Nicholson et ses amis par des enfants. Le plafond bas qui écrase tout, les trousseaux de clés qui tintent à chaque fois qu'une porte s'ouvre ou se ferme, et dans la salle dite collective, tous les clichés de la folie. Les bruits, les cris, un gamin qui se tape la tête contre un mur, un autre qui insulte sa peluche. Est-ce que c'est vraiment ici que mon fils se soignera? Comment peut-on guérir dans un endroit comme ça, aussi sale, aussi insensé? La chambre de Charles ressemble à une cellule de prison. Aucune décoration, aucune couleur, aucune fleur. Dans les chambres des enfants malades du cancer, on met des dessins au mur, chaleureux. Pas là. Charles pose sa valise sur un maigre matelas enveloppé d'une couverture de l'assistance publique et il sort un livre, La Métamorphose de Kafka, qu'il aura en vain l'obsession de finir. Et entre deux portes, le docteur Adage nous annonce
« Bien, son séjour ici va durer entre 2 et 3 mois. Donc il va falloir qu'il continue sa scolarité. On a des cours ici, à l'hôpital. »
Et moi, je commence mes allers-retours maison, hôpital. Je lui apporte du linge propre et des gâteaux. Et à chaque fois,
« J'ai envie de sortir, maman. J'ai envie de sortir. »
Je lui réponds que ça n'est pas moi qui décide. je ne la supporte pas, cette psy. Leur adage. D'abord, elle parle trop vite. Mais surtout, elle parle trop vague. Et elle pose des questions. Et combien de temps a duré mon accouchement? Et est-ce qu'il y a eu des complications? Et quel âge avait le père? Est-ce qu'il a eu des maladies? Est-ce que je travaille? Comment s'est passé le divorce? Je comprends, hein, qu'elle pose toutes ces questions. Mais moi, ça me culpabilise. Et quand moi, en retour, je lui demande, mais qu'est-ce qu'il a, Charles? Quel traitement on va lui donner? Quel dosage? Quels effets secondaires? Quel danger? Eh ben, elle n'a pas le temps de développer, hein. Elle n'a pas le temps d'être claire. Le premier week-end de permission, je récupère une marionnette, inanimée, les bras ballants. Les neuroleptiques. Il grignote de manière compulsive, il a le regard perdu. Charles a disparu. Il a disparu sous l'effet des psychotropes. Écoutez, docteur Adage, je veux savoir ce qu'il a. J'exige d'avoir accès à son dossier médical. Enfin, en tant que parent, on a le droit de savoir. Et là, elle condescend à me transmettre un compte-rendu. Épisode psychotique dans un contexte de consommation de cannabis, point. Si cet épisode se prolonge au-delà de 6 mois, virgule, un diagnostic plus précis pourra se poser. Et là, la fatigue, le stress, je pique une grosse colère. Enfin, ça fait 2 mois et demi qu'il est là et on ne sait pas où on va. Elle me regarde d'un air stupéfait et elle m'oriente vers le patron de son service qui nous sert un mélange de psychiatrie et de psychanalyse. Fumeux, abstrait, je ne comprends rien. Encore un rendez-vous complètement nul. Charles sort de l'hôpital le 28 mai, un peu plus de 2 mois après son entrée. Et ils nous le rendent réglé comme une machine. Déjeuner à midi, dîner à 19h. Quand est-ce qu'on mange? Et il s'assoit à table en attendant l'arrivée du plat. Mon propre psychiatre m'explique qu'il a besoin de régularité et de sécurité. Alors, je me transforme en ménagère qui chouchoute son enfant. Pendant l'été qui suit, il plonge dans l'oisiveté la plus totale. Il se réveille tard, il mange, il joue à la PlayStation, sa télé est allumée en permanence. Alors, j'achète 2 billets de bus pour l'Espagne, et on part tous les deux. Mais il emporte des barrettes de shit, et quand je lui rappelle que c'est mauvais pour sa santé, il me répond « Mouais !» avec mollesse. Et chaque fois que le bus fait un stop, je le soupçonne d'aller se cacher pour fumer. Et chaque fois que le bus redémarre, j'ai peur qu'il ne remonte pas. J'ai toujours peur de le perdre. Charles a maintenant 18 ans. Il est majeur. Et donc, il ne peut plus être suivi en pédopsychiatrie à la Pitié. Nous sommes réorientés vers l'établissement de notre secteur, l'Association de santé mentale du 13e arrondissement de Paris, dont on me dit que c'est un bastion psychanalytique. Méfiance. Alors je cherche une autre solution. Et un ami d'amis m'en propose une.
Vous devriez vous rapprocher du SHU de l'hôpital Sainte-Anne. Ils sont à la pointe de la recherche en psychiatrie, vraiment. Hein. Essayez de voir le docteur Machefaux.
Je note son nom. Un dimanche soir du mois de juin, je rentre chez nous, j'appelle l'ascenseur, et quand j'arrive au 4e étage sur notre palier, je vois un meuble en vrac. Le bureau de Charles, il l'a démonté intégralement.
Charlie? Charlie, tu es là? Qu'est-ce que tu fais, Charlie?
Il est enfermé à l'intérieur. Il ne veut pas m'ouvrir.
Charles, s'il te plaît, laisse-moi entrer!
Je redescends, je lève la tête, et je vois sa tête hirsute qui se penche dans le vide. Le lendemain, j'appelle SOS Psychiatrie. Le médecin se déplace avec des policiers. Et cette fois, il nous ouvre. Et il suit le médecin. Et j'obtiens qu'on le conduise à Sainte-Anne sous la responsabilité de ce docteur Machefaux, dont on m'a tant parlé. Le docteur Machefaux est un homme grand, sec, élancé, avec des yeux bleus. Il dégage un calme, et il a une manière de s'exprimer qui est limpide, solide. Il m'inspire aussitôt confiance. Il s'assoit à côté de Charles, d'égal à égal.
Alors Charles, bon, d'abord je préconise de vous donner du Léponex, hein, ça va vous soulager. Et personnellement, hein, j'émets l'hypothèse que vous avez ce qu'on appelle une schizophrénie.
Une schizophrénie?
Je suis abasourdi. Évidemment, je suis bourré de préjugés sur cette maladie. Je suis comme tout le monde, hein. Tant qu'un sujet ne m'a pas touché de près, je ne m'y intéresse pas.
Une schizophrénie?
Je crois que je préférerais un cancer. La schizophrénie, c'est effrayant. Les schizophrènes sont des fous.
Mais docteur, vous pouvez vous tromper, non?
Il encaisse sans broncher. Et puis il se tourne vers Charles.
Vous savez, Charles, vous allez recouvrer toutes vos capacités, hein. Vous allez retrouver le goût des choses que vous aimez faire, des livres que vous aimez lire, tout ça, hein. C'est une maladie qui se soigne, Charles. C'est une maladie dont vous pouvez guérir.
Et là, il se tourne vers moi.
Vous connaissez le programme Pro Famille?
Non.
Je suis à mille lieues d'imaginer le long parcours dans lequel la maladie de Charles est en train de m'embarquer.
Le séjour de Charles à l'hôpital Sainte-Anne dure 2 mois et demi.
Bien, Charles. Je vais vous laisser sortir parce que vous allez mieux. Mais vous devez absolument arrêter de fumer du cannabis. Hein, ça n'est pas bon pour vous du tout. Donc vous sortez de l'hôpital, mais je garde un œil sur vous, hein. Vous viendrez toutes les semaines faire une prise de sang pour vérifier votre consommation de cannabis. Et je vous préviens, si vous dérapez, vous reviendrez. Et vous resterez.
Charles obtient l'allocation adulte handicapé, 800 euros par mois. Il va mieux, le Léponex semble lui réussir. Et moi, je m'inscris au programme Pro Famille, dont m'a parlé le docteur Machefaux, qui est un programme psycho-éducatif pour les familles qui ont un proche qui souffre de schizophrénie.
Je vous inscris, mais je vous préviens. On n'a pas de place pour l'instant, pas avant septembre 2013.
Ce programme n'est proposé qu'à 3% des familles concernées en France.
Quelques mois plus tard, Charles commence à décliner. Et moi, en attendant l'accompagnement pro-famille, je suis toujours livré à moi-même. À un moment, eh ben, je me tourne vers mon établissement de secteur, l'association de santé mentale du 13e arrondissement, où on m'oriente vers une psychiatre en charge des jeunes adultes.
Moi, madame, je ne vais pas vous cacher mon point de vue. Hein, je pense que le docteur Machefaux s'est trompé. Je pense que Charles n'est pas schizophrène. Et personnellement, j'opterais plutôt pour sans doute une psychose infantile. Et dans ce cadre d'ailleurs, je voudrais vous proposer une approche psychanalytique, hein, pour faire émerger le désir qui est en lui. Et d'ailleurs, peut-être qu'il irait mieux s'il allait vivre chez son père. En attendant, je voudrais qu'il arrête le Léponex.
Je contiens un rire nerveux. La dame appartient manifestement à une génération de psychiatres qui défend l'idéologie intellectuelle de l'après-68, selon laquelle la psychose, la schizophrénie, est un fait social. C'est un refus de la famille, un refus de la société. Ce rendez-vous m'assomme. Tout se casse la figure. Je commence à comprendre que la maladie de Charles échappe au cadre d'une science exacte.
J'écris alors au directeur de l'association de santé mentale du 13e arrondissement. Est-ce qu'il a une schizophrénie, oui ou non?
Voilà sa réponse. De façon générale, nos équipes sont réticentes à la formulation d'un diagnostic de schizophrénie de façon prématurée chez les grands adolescents, car seule l'évolution permet de confirmer une telle hypothèse, alors que le diagnostic peut gréver durablement l'idée que le jeune se fait de lui-même.
C'est très clair. et moi je ne sais plus du tout où j'en suis. J'en arrive à penser que le docteur Machefaux s'est trompé, mais j'hésite à le contacter parce que ce flou me plaît bien au fond. Je recule le moment de m'entendre confirmer le diagnostic. On m'a dit que la clinique de la Chênaie était très bien. Eh bien, va pour la clinique de la Chênaie, où d'emblée le psychiatre m'annonce « À mon sens, il faut minimiser les troubles de Charles, hein. Son cas n'est absolument pas grave. » Tant mieux. Ici, l'ambiance est plutôt baba cool. Les soignants ne portent pas de blouse blanche. Les résidents se baladent dans le parc du matin au soir. Ils passent leur journée à fumer des cigarettes, à boire du café et à aller faire leurs courses au supermarché du coin. Une sorte de parking pour psychotiques. Charles pourrait très bien rester ici jusqu'à ses 40 ans. Mais après, qu'est-ce qu'il propose pour se rétablir? Eh ben rien. Il est en train de perdre son temps. Quelle foutaise! Il aura passé là 6 mois pour rien. Si ça n'est pour mon confort. Ça y est. J'ai enfin commencé le programme Pro-Famille que m'avait conseillé le docteur Machefaux. C'est un programme d'origine québécoise. Il est animé par une psychologue, Dominique Huillard. Une séance de 4 heures tous les 15 jours, pendant 2 ans. Alors, est-ce que la prochaine fois, vous pourriez m'apporter une photo de votre enfant avant le déclenchement de sa maladie et une photo de votre enfant après? Ça, c'est un exercice très cruel. Parce qu'avant, Charles ressemblait à l'acteur Louis Garrel. Grand, svelte, on l'appelait le beau gosse. Et aujourd'hui, il a pris 20 kilos, son regard s'est figé, la forme de son visage s'est modifiée, sa sensibilité a perdu en expressivité. C'est douloureux, un tel changement chez son enfant. On est 12 autour de la table. Cyril, qui s'engage pour son fils, un grand-père qui se forme à la maladie de sa petite-fille, des couples dont les contradictions m'amusent pas mal, et à travers les récits des uns et des autres, je reconnais par petits bouts la maladie de Charles. Et petit à petit, mon doute sur le diagnostic s'estompe. Je m'habitue à l'idée que Charles est schizophrène. Et puis on nous donne des techniques concrètes, des solutions au problème. Vous savez, la prise en charge par la famille a un impact très bénéfique sur l'état du malade. Mieux la famille est formée, moins le malade rechute. On nous dit que le taux de rechute est divisé par 4 au bout d'un an et par 2 les années suivantes. On nous apprend par exemple la technique des 4 P qui signifie « Soyons prompts à être positifs pour des petits progrès ». Par exemple, quand je rentre le soir et que Charles a fait la vaisselle.
« Oh merci chérie, ça me fait bien plaisir et puis ça me soulage. »
S'il s'est rasé, je lui fais la remarque.
« Ah, tu t'es rasé? Oh ben c'est bien, hein. Ça me fait plaisir de te voir comme ça. »
Charles est touché, il est encouragé par mes compliments. Ça change tout. Et puis avant, je m'épuisais à épier tous ces faits et gestes. Eh bien maintenant, j'apprends à lâcher le ballon. Je lâche prise. Un jour, Charles rentre du tennis. Il claque la porte, il est angoissé.
Maman! Maman, ils sont en train de me suivre!
Mais qui, mon chéri?
Eh ben, les Chinois!
Avant, je lui aurais dit.
Oh, mais Charles, c'est dans ta tête!
Ce qui revient à dire ton pull est vert à quelqu'un qui porte un pull rouge. Aujourd'hui, je lui dis.
Ah ben effectivement, moi aussi je serais très angoissé si j'avais l'impression qu'on me suivait.
C'est le principe de l'écoute réflexive préconisée par Pro-Famille. Ce programme, Pro-Famille, m'a sauvé. Sans lui, je serais sans doute en dépression ou à l'hôpital.
Histoire tirée du livre de Bénédicte Chenu qui est là avec moi, Des Lumières sur le ciel aux éditions Le Duc. Ça va, Bénédicte ?
Ça va.
J'ai choisi de m'arrêter là, j'aurais pu continuer parce que quel âge a-t-il aujourd'hui, Charles ?
Charles a 27 ans aujourd'hui.
Alors comment va-t-il ?
Aujourd'hui, il va beaucoup, beaucoup mieux. Il est toujours à l'hôpital, il est toujours à Sainte-Anne parce qu'il a... Il a beaucoup de difficultés à accepter de prendre un traitement, alors il est entouré d'une équipe qui l'aide vraiment à essayer de trouver le bon traitement, qui lui a le moins d'effets secondaires et qui lui convient le mieux.
Donc là, présentement, il est à l'hôpital.
Il est à l'hôpital.
Sinon, il a un appartement pas loin de chez vous, c'est
sinon,
ça ?
Sinon, il a obtenu un appartement qui est tout près de chez moi, en fait, et ben, il est très content de pouvoir être autonome, et moi, je suis très contente aussi d'être enfin, de vivre... à côté de lui, mais pas avec lui.
D'avoir lâché le ballon, comme vous dites.
Exactement.
Au moment où il a posé le diagnostic, le docteur Machefaux de l'hôpital Sainte-Anne dit à Charles « Charles, vous allez retrouver toutes vos capacités. C'est une maladie qui se soigne. C'est une maladie dont vous pouvez guérir. » Il vous a un peu menti, non, quand même ? Ou il lui a un peu menti ? Enfin, ou alors on est dans la positive attitude ?
Alors, je ne sais pas s'il a menti. C'est sûr qu'en tout cas, il nous a donné beaucoup d'espoir. Enfin, moi, il m'a donné beaucoup d'espoir à ce moment-là. C'est sûr que le terme de guérison pour la schizophrénie, c'est très discutable, bien qu'il y ait quand même à peu près 30% de personnes où la maladie disparaît complètement. C'est vrai que Charles, il a toutes ses capacités intellectuelles, mais par moments, effectivement, il a des petits moments où il a des sensations, qu'on le regarde, qu'on lui veut du mal, et surtout quand il est très angoissé. Donc à ces moments-là, il est pas très concentré, donc c'est certain, mais...
Et puis il arrête les prises de médicaments. C'est le deuxième problème. Exactement. Des maladies psychotiques.
C'est ça, c'est que en fait, il y a certains patients acceptent complètement la prise de médicaments, et Charles, au début, l'avait accepté, et puis maintenant, il la questionne, il a l'impression que... Mais je pense que ça fait vraiment partie de sa maladie, que c'est plutôt les médicaments qui le rendent malade. Il a du mal à accepter. Je pense qu'il fait beaucoup d'auto-stigmatisation. Il veut pas.
Il ne s'aime pas quand il est sous médicaments, quoi. Il trouve la vie ennuyeuse.
Oui, il s'aime pas. Il trouve qu'il a moins d'émotions. Il trouve que.
Il a sans doute moins d'émotions.
Il a moins d'émotions, mais c'est vraiment encore une fois, c'est pour ça qu'il est toujours actuellement suivi à l'hôpital. C'est pour trouver le juste dosage pour qu'il ait encore des émotions et qu'il arrive à gérer ses symptômes.
Et vous, parce que ça, je ne l'ai pas dit, mais du moment où il est diagnostiqué, vous êtes obligé d'arrêter votre boulot, vous. Enfin, vous faites virer, en vérité.
Je me fais virer parce que je suis à l'époque, enfin, j'étais au musée d'art moderne de la ville de Paris, je travaillais et je vivais seule, et quand je rentrais de la maison, je retrouvais souvent mon fils dans un état pas possible, et du coup moi je dormais très peu, j'étais très obsédée par son état, et c'est vrai que du coup je travaillais beaucoup moins bien.
Donc vous vous êtes en quelque sorte sacrifié, enfin même si le mot n'est pas, peut-être que vous n'y adhérerez pas, je le pressens puisque je vous ai lu et je vous ai fait parler, mais aujourd'hui il a fallu s'y remettre ou pas, au boulot?
Disons qu'aujourd'hui, je travaille moins, c'est certain, parce que ça m'a pris quand même... l'accompagnement de Charles a pris à peu près 10 ans.
Oui.
Ça a été quand même très compliqué, et moi, je réussissais pas à
construire quelque chose à côté.
Non, enfin, j'ai fait des petits boulots, ouais. J'ai monté une association, je me suis vraiment intéressée au sujet de la schizophrénie. Charles a vu beaucoup de psychiatres différents, mais c'est vrai que j'arrivais pas... Puis j'étais pas dans un travail déjà depuis plusieurs années. Je commençais un travail au moment où il est tombé malade, donc il fallait justement que je travaille encore plus, que je fasse mes preuves, et c'était pas possible.
Donc là-dessus, vous avez fait une croix sur la carrière?
J'ai pas été vraiment quelqu'un de très intéressé par la carrière.
Bénédicte, au tout début de l'histoire, il y a donc ce psychologue que vous consultez sur le conseil de l'une de vos sœurs, et qui, au bout de 3 séances, suggère qu'il souhaite hospitaliser. Est-ce que vous savez si à ce moment-là, lui, il a dans sa tête l'hypothèse de la schizophrénie?
Certainement. Alors peut-être pas forcément de la schizophrénie. Il pouvait peut-être, il avait peut-être envisagé autre chose, une bipolarité, mais il a certainement décelé le côté psychotique, le fait que Charles réponde de façon très elliptique, qu'il n'ait pas un discours très élaboré. Il a certainement pensé à la psychose, et il a très bien fait.
Et vous, ça, vous n'en parlez pas. C'est-à-dire, à quel moment est-ce que cette porte s'ouvre dans votre tête, avant que le mot ne soit dit par le docteur Machefaux? Parce que hôpital psychiatrique, on va pas à l'hôpital psychiatrique, en fait, pour 100 000 raisons. On y va essentiellement pour des psychoses. Il y en a que deux. plus les psychoses de l'enfance. C'est-à-dire la bipolarité, la schizophrénie, la paranoïa, éventuellement.
et puis les psychoses de l'enfance. Et donc, est-ce que l'hypothèse existe dans votre tête? Vous ne le dites pas, ça.
L'hypothèse de la schizophrénie, oui, elle existe. Elle existe, j'y pense, parce que dans ma famille, j'ai un beau frère qui est psychologue et qui parlait de son expérience de patient avec une schizophrénie. Et donc, c'est j'en avais extrêmement peur, en fait. J'y pensais, je voulais tout sauf ça.
Parce que c'est ça qui n'est pas forcément clair pour les gens qui nous écoutent. Je me mets surtout à la place des parents qui ont des gamins qui fument du cannabis comme des fous. Donc, ils écoutent cette histoire et je voudrais pas qu'ils en concluent qu'à chaque fois qu'un gamin fume du cannabis à 15-16 ans, même beaucoup, au bout, il est forcément schizophrène. Qu'est-ce qu'il avait de plus inquiétant que la dépendance au cannabis?
Bah, en fait, moi, j'avais vraiment jamais décelé, à part ce que j'ai décrit, un caractère un peu turbulent, mais il avait pas de, c'était pas un enfant reclus, c'était pas.
Il n'entendait pas des voix à cette époque-là.
Non, pas du tout.
Il n'avait pas des Chinois qui le suivaient.
Non, pas du tout, mais la schizophrénie, c'est une maladie du cerveau, en partie avec une grande partie génétique. Le cannabis, surtout le cannabis d'aujourd'hui, ou le shit d'aujourd'hui, est extrêmement fort,
extrêmement fort en THC.
Et un jeune qui fume jeune avec un cerveau de 14 ans, c'est pas un cerveau de quelqu'un de 30 à 40 ans, c'est un cerveau qui est très malléable, très poreux, et donc les risques effectivement sont beaucoup
de déclencher,
oui. Et il y a certaines personnes qui peuvent vraiment déclencher une schizophrénie parce qu'ils fument tous les jours. C'est aussi une question de dosage. Mon fils fumait tous les jours.
Alors ensuite, vous allez buter sur la difficulté qu'ont les psychiatres à poser un diagnostic en psychiatrie. En vérité, ça aussi, peut-être qu'il faut le dire, parce que vous, ça vous énerve sur le moment, et on est avec vous, on vous accompagne, et on comprend évidemment la souffrance du parent. Mais avant de poser un diagnostic, en vérité, il faut plusieurs épisodes. C'est là-dessus qu'on bute souvent. La schizophrénie n'est pas facile à diagnostiquer chez l'adolescent.
C'est vrai, elle n'est pas facile à diagnostiquer, il faut environ 6 mois, mais en même temps, plus elle est diagnostiquée de façon précoce, plus les chances de se rétablir sont grandes. Et en même temps, je pense que quand on diagnostique une schizophrénie, il y a le soin qui s'installe tout de suite derrière, il y a les médicaments, donc je pense qu'il ne faut pas avoir, encore une fois, c'est une question de stigmatisation, finalement, certains psychiatres, moi j'ai entendu certains psychiatres dire qu'ils n'avaient jamais posé de diagnostic à des personnes, donc les personnes, voilà, pensent qu'elles ont une psychose, ou que finalement...
Mais ils ne le disent jamais.
Non, ils ne le disent jamais parce que d'abord, ils ne sont pas forcément d'accord avec ce mot-là, parce que comme il y a différents courants, parce que finalement, est-ce que c'est important que le psychiatre le sache, mais finalement, le patient, est-ce que c'est important? À la limite, est-ce qu'il sait vraiment lire une notice? Parce qu'on lui donne un neuroleptique, mais c'est bien marqué.
C'est écrit dessus.
Voilà, c'est un peu... Je pense que ça, effectivement, ça fait peur, mais c'est important.
Ce qu'on sent chez vous, je ne sais pas, j'ai mis une hypothèse, mais au fond... Les psychiatres abordent les parents un peu comme s'ils se ressemblaient tous. Et donc, vous seriez plutôt du genre, vous auriez aimé qu'on pose les hypothèses sur la table. Vous auriez aimé qu'ils vous disent, je songe à une schizophrénie, je suis pas encore sûr, mais c'est peut-être ça.
Oui, j'aurais aimé ça, bien évidemment. J'aurais aimé surtout d'entendre, aujourd'hui, on va faire ça comme ça. Pour aujourd'hui, on va lui donner des médicaments, mais surtout ne pas me parler de chronicité, tout de suite voilà, c'est une maladie à vie, c'est tout de suite on imagine des choses avec tout l'imaginaire collectif qu'on connaît autour de la schizophrénie. C'est essayer de mettre dire des mots positifs aussi, parce qu'il y a énormément de personnes qui vivent très bien avec cette maladie aujourd'hui.
Mais c'est quand même fabuleux de voir à quel point il y a un grand nombre de psychiatres qui savent pas parler aux gens.
C'est vrai, mais je pense pas qu'ils ont été formés pour ça. Et
bah, c'est leur métier. L'interactivité avec l'être humain, normalement, hein, c'est un peu leur champ, quoi.
Alors, en même temps, moi j'en ai rencontré qui ne savaient pas du tout parler aux parents, et puis aujourd'hui, mon fils est suivi par une équipe avec qui je discute beaucoup, que je vois régulièrement, que j'appelle régulièrement, et je n'ai pas du tout cette problématique-là, donc ça veut dire que c'est possible.
Ruffo, à votre avis, il avait compris, lui aussi?
Moi, je pense qu'il avait compris, mais je pense que, bon, pour lui, c'était... Voilà, je ne sais pas s'il a pris ça très au sérieux. Finalement.
Mais est-ce que c'était une bonne idée d'aller voir un psychiatre
pas.
À Marseille quand on habite
non,
à Paris?
Non, mais vous
13e.
Savez, parfois quand on est perdu, on se dit un psychiatre qui est connu.
Ouais.
Voilà, on y va parce qu'on ne sait pas. Voilà, mais effectivement, c'était certainement une perte de temps.
Alors, ce qui est très marquant dans votre récit, c'est la description terrifiante que vous faites du service de pédopsychiatrie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Vous dites que ça ressemble au vol au-dessus d'un nid de coucou, c'est-à-dire que c'est l'hôpital psychiatrique des films, avec les néons,
les bruits terribles, le bruit surtout en fait, hein, le bruit on sent, et la lumière.
Une espèce de lumière blafarde, et puis tous ces enfants comme ça, qui ont chacune, on voit qu'ils ont chacun une problématique, le bruit, quand ils font la queue pour les médicaments, c'est vrai que je n'aurais jamais pu imaginer une seule seconde que on mette des enfants qui ont besoin de soins dans des lieux aussi glauques, en fait.
Mais à Sainte-Anne aussi, il y a des endroits glauques. Hein. Alors, on s'habitue, je suis sûr,
à ce
que ça soit glauque.
Il y a des lieux qui sont glauques et il y en a qui le sont moins.
Oui, ça dépend des pavillons, quoi.
Exactement. En fait, c'est vraiment souvent, c'est bonne pioche ou mauvaise pioche.
Globalement, vous diriez que le système de psychiatrie française, qui est l'un des meilleurs au monde, alors après, comparons-nous, pour nous consoler, il n'y a pas beaucoup de systèmes de prise en charge psychiatrique aux États-Unis. Charlie serait sur un trottoir, probablement.
Absolument, oui.
Mais vous diriez quoi du système de prise en charge des adolescents psychotiques en France ?
Je dirais qu'il est très inégal et que c'est dommage. Je dirais qu'il y a des endroits où les prises en charge sont très sérieuses, où elles sont, c'est vraiment tout de suite il y a une espèce de constellation qui est organisée autour de l'enfant. Moi, je vois par exemple pour mon fils, il est donc suivi à Sainte-Anne, il est suivi par un SAMSA.
Un SAMSA, c'est une hospitalisation à domicile, en quelque
sorte. Voilà, c'est des jeunes. Alors, il y a des éducateurs, il y a un infirmier qui vient le voir à la maison, qui l'aide à faire ses papiers, ou qui l'amène au cinéma, et qui travaille avec les psychiatres de Sainte-Anne. Donc,
et ça coûte beaucoup moins cher. Alors, c'est que l'hospitalisation à Sainte-Anne.
Absolument. Et puis, ce sont des jeunes qui ont le même âge que Charles, et on est tous autour de lui. On est au courant de quand il va moins bien, ils mettent des alertes. Enfin, je veux dire, il y a tout un service autour de lui, psychosocial, qui fait que il est entouré, qu'il y a un maillage qui est pas de la surveillance, mais qui est de la bienveillance autour de lui, et ce qui fait que moi, je suis rassurée. Je sais que si quelque chose se passe, je peux en parler avec quelqu'un, je peux appeler le psychiatre. Mais malheureusement, ça, c'est rare, c'est très rare.
Et puis vous racontez votre passage par l'association de santé mentale du 13e arrondissement, qui est donc votre hôpital de secteur. En vérité, vous n'avez en théorie pas le choix que d'amener Charles là. C'est celui qui vous est désigné, puisqu'en France, la psychiatrie est sectorisée. Et donc cette psychiatre qui vous dit, mais il n'est pas du tout schizophrène, je vous propose un traitement psychanalytique... il faut gérer ses émotions, patati patata. Il y a un moment où il ne faut pas laisser dire de bêtises quand même. La schizophrénie est génétique, n'est-ce pas ?
Mais il y a une part de génétique, bien sûr, qui est très importante, même si on n'a pas encore tout découvert sur ces maladies. C'est quand même c'est pas une maladie psychologique, c'est une maladie du cerveau. Et c'est pas parce qu'on est un parent absent, ou c'est pas parce qu'on est un père, c'est pas parce qu'on a divorcé. Comme vous l'avez dit, c'est la société ne rend pas schizophrène. C'est vraiment une maladie qui, la prévalence est à peu près toujours la même depuis des années. C'est comme, pour moi, c'est comme si à un moment le cerveau est tellement complexe, ce que j'ai entendu d'ailleurs d'un psychiatre. Le cerveau c'est une machine qui est tellement, le psychisme est tellement complexe, et à un moment ça se grippe, ça déraille, et puis, eh ben, à ce moment-là, il faut le soigner, entourer, parler, mais en aucun cas, c'est une maladie du cerveau qui a des conséquences psychologiques, puisqu'il y a une énorme souffrance.
Mais en aucun cas, c'est d'origine sociale. Voilà.
Pour moi, absolument pas.
D'où vous vient cette méfiance vis-à-vis de la psychanalyse ? En fait, vous n'êtes pas 68 arde, hein ?
Mais non, mais c'est parce que moi aussi, enfin, je suis pas 68 arde, mais j'ai quand même essayé de faire une psychanalyse et j'ai constaté vraiment que c'était absolument... c'était un peu n'importe quoi. J'ai jamais cru tellement dans toutes ces théories sur la sexualité enfantine. Enfin, j'ai jamais vraiment. Je me suis plutôt intéressée toujours à la science. Mais
vous n'êtes pas croyante, voilà.
Non, je suis pas croyante. Hein? Parce que pour moi, la psychanalyse aujourd'hui, c'est comme une religion. C'est un dogme. Et si on n'y croit pas, c'est qu'on n'est pas intelligent et qu'on n'a pas compris.
La méthode pro-famille, alors évidemment on est fasciné, on comprend évidemment intuitivement que c'est exactement ça qu'il faut, c'est-à-dire former l'entourage à l'accompagnement de cette maladie et que le bénéfice est direct pour le malade. Là où on bondit, c'est que vous n'êtes donc que 3% des familles de malades en France à avoir suivi cette formation.
Oui, mais ça encore, c'est parce que certains hôpitaux, certains psychiatres ne veulent pas...
N'y croient pas.
N'y croient pas, parce qu'encore une fois, c'est pas... voilà, ça vient des parents, on va pas former les parents, enfin les parents, c'est pas important qu'ils sachent. Moi, on m'a déjà dit, mais comment se fait-il que vous sachiez tout ça? Quel est l'intérêt? Puis ça demande du temps, ça demande à former les infirmiers, donc moi je pense que c'est criminel, on aurait...
Ça diminue les rechutes, vous dites, et puis pas qu'un peu.
Alors, bon, ça diminue les rechutes, en l'occurrence, pour le cas de mon fils, ça n'a pas diminué les rechutes.
Oui, parce qu'il a pris beaucoup de rechutes après.
Voilà, mais ça, bon, tout ce qui est un peu ce côté...
Ça a apaisé votre vie.
Ça a apaisé ma vie, ça m'a donné des solutions, ça m'a fait rencontrer des personnes qui vivaient les mêmes choses que moi, ça m'a permis de voir que effectivement Charles avait une schizophrénie parce que j'ai pu identifier avec d'autres parents, et puis ça m'a appris aussi sur la maladie, mais en l'occurrence, et puis il y a d'autres parents aussi, ça n'a pas diminué les rechutes de Charles, et moi j'ai enfin je veux dire mon niveau de stress, il est quand même ça dépend, mais je veux dire il est quand même toujours aussi
élevé.
Pas forcément, mais disons que si Charles va pas bien, bah je vais pas très bien non plus. Et puis dans notre groupe et dans les groupes à côté, il y a eu énormément de suicides aussi, parce qu'il faut dire que dans ces maladies...
15% se suicident.
Oui, 40% de tentatives de suicide et 15% de se suicident.
Durée de vie diminuée de 20% par rapport à quelqu'un de valide.
C'est quand même d'une injustice incroyable. Ça veut dire que peut-être que mon fils mourra avant moi. Enfin, comment accepter ça ?
Bénédicte Chenu a écrit Des Lumières sur le ciel aux éditions Le Duc. Merci Bénédicte.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.